Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Nous lisons ensemble, c'est un texte peut-être que vous êtes accoutumé, que vous êtes habitué à lire. Pour d'autres peut-être ça sera la première fois. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyer ». Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non ». Mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et je recouvris la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. Il lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme, pécheur, peut-il faire de tels miracles ?» Et il eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents et les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ?» Ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert les yeux? Et là, il va réexpliquer. Les pharisiens vont répondre, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Au verset 34, il dit, ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes et le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Il lui dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Amen. Amen. C'est une lecture assez longue, mais je pense qu'il était nécessaire qu'on puisse voir ensemble le contexte de ce passage, de ce texte. Je pense qu'au travers de cette histoire, de cet homme aveugle, il y a là vraiment des révélations extraordinaires. Il y a là également un cheminement chez cet homme. Il y a là les hommes religieux, les pharisiens, ces hommes qui connaissaient la loi d'une manière parfaite. Et il y a là leur réaction, il y a là vraiment toutes les classes de la société et notre manière peut-être ce soir d'appréhender Jésus-Christ. Le titre de mon message, c'est « Reconnaître Jésus pour le Christ ». Et c'est ce verset qui a frappé parce qu'il est écrit que celui qui reconnaissait Jésus pour le Christ... Pour le Christ, pardon, il serait exclu. Et mon message, c'est reconnaître Jésus pour le Christ. Cet homme était là, malade, aveugle plutôt, il était là, mendiant. Cet homme, on ne va pas trop s'apesantir sur la condition de vie de cet homme parce que ce n'est pas là vraiment le but de ce message. Mais en tout cas, ce qui est frappant, c'est que il part de zéro, on peut dire, cet homme, parce qu'il ne connaissait pas Jésus, il ne le connaissait pas. Il ne savait pas qui il était, il ne savait pas pourquoi il était là, il ne savait pas grand-chose, toujours est-il, c'est qu'à un moment donné, sa vie va basculer parce que Jésus va s'arrêter. Jésus va prendre le temps de parler avec lui. Jésus va lui dire ce qu'il doit faire pour être guéri. Et cet homme va retrouver la vue. Et on pourrait dire que c'est là un miracle extraordinaire. On pourrait dire que la suite de l'histoire aurait pu être bien différente. Parce que tout le monde aurait pu dire, mais waouh, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si aujourd'hui, s'il y avait un aveugle, s'il était guéri, je ne pense pas qu'on s'inquiéterait de savoir quel jour cela a été fait, mais on serait là dans l'étonnement. On serait stupéfait de voir la puissance de Dieu. Mais on voit que la suite des événements va prendre une tournure tout autre. Tout autre. Parce que cet homme qui avait été guéri par Jésus-Christ devait apprendre à connaître d'une manière intime qui était Jésus-Christ, parce que c'est cela qui nous intéresse ce soir. Au travers de ce texte, de ces versets, nous y voyons là vraiment un cheminement, le déroulement d'une réflexion d'un homme. Nous y voyons là le cheminement, peut-être au début intellectuel, mais après, qui rentre dans son cœur. On y voit là un homme qui, dans son âme, dans son cœur, il voit là en Jésus-Christ celui qu'il a toujours attendu dans sa vie. Non pas parce qu'il y a eu un miracle, mais parce qu'il a bouleversé sa vie. Le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est la réponse des hommes pharisiens, des hommes religieux. Jésus ne vient pas de Dieu. Et c'est là quelque chose qui est terrible à lire, c'est quelque chose de terrible à réfléchir, à s'interroger lorsque ça nous interpelle, parce que les hommes religieux vont dire « mais cet homme ne peut absolument pas venir de Dieu ». Il venait de faire un miracle, il venait de guérir l'aveugle. Mais les hommes religieux de l'époque vont dire « mais il ne peut pas ». Une autre version va dire « il ne vient pas de la part de Dieu ». Parce que ce qu'il a fait, il a fait le jour du sabbat. Il a fait le jour du sabbat. Et je ne veux pas rentrer dans des réflexions sur le sabbat, parce que ce n'est pas encore là le sujet de ce message. Mais vraiment, ce qu'il y avait sur mon cœur, c'était qu'on peut être à des stades, à des niveaux différents dans notre vie. Et je pense que la réaction des pharisiens, c'est ce qui nous est tous arrivé à un moment donné ou à un autre dans notre existence. Et peut-être que quelqu'un se retrouve dans cette configuration. Bien sûr, on entend parler de Jésus. Tout le monde entend parler. À un moment donné ou à un autre dans sa vie. Parce que on est dans un monde en plus où la parole de Dieu est là. On est dans un pays où on peut la voir en toute liberté. On peut en entendre parler à la télévision, sur Internet. On entend parler de Jésus. On entend peut-être des témoignages. Il a guéri. Il a béni. Il a fait du bien. Peut-être autour de nous, nous avons des collègues de travail, des amis, des membres de notre famille qui ont rencontré Jésus-Christ, qui nous en parlent, peut-être. Mais nous, comment est-ce qu'on reconnaît Jésus-Christ ce soir? Est-ce qu'on le reconnaît comme ces pharisiens en disant « mais je suis désolé, cet homme ne vient pas de Dieu ». Est-ce qu'on a la même réaction que ces hommes pharisiens lorsqu'ils apprennent ce que Jésus a fait? Leur seul souci, c'était de piéger Jésus-Christ, c'était de pointer du doigt qu'il ne pouvait pas venir de Dieu parce qu'il avait fait ce miracle le jour que le Seigneur avait mis à part pour que son peuple, le peuple de Dieu, puisse vraiment se consacrer d'une manière particulière au Seigneur. Alors s'il avait fait ce miracle ce jour-là, ça ne pouvait pas être de Dieu. On était là, et les hommes religieux vraiment caractérisent ces personnes qui reçoivent un enseignement, qui reçoivent, qui sont là, qui récoltent le fruit, je vais dire, d'une religion, même si le mot n'est pas bien choisi ce soir, qui reçoivent un enseignement sur la religion sans connaître Jésus-Christ, qui reçoivent véritablement des enseignements, on pourrait dire théologiques, en passant à côté de l'essentiel. Les hommes religieux étaient tellement tellement concentrés sur la loi, sur, on le verra après, les prophètes. Les hommes religieux étaient tellement concentrés sur le cadre, sur la forme, qu'ils avaient oublié le fond, qu'ils avaient oublié l'essentiel. Et alors que je réfléchissais vraiment à cette réponse qui surprend, parce que plus tard ils vont dire, mais nous sommes disciples de Moïse. Nous, nous connaissons Moïse. Nous savons que Moïse vient de Dieu. Moïse, c'est Dieu qui l'a appelé. Nous avons cette connaissance. Alors que Moïse parle de Jésus-Christ. Alors que la religion est là, et peut-être que quelquefois c'est cela qui est difficile dans notre vie. C'est difficile lorsqu'on nous parle de Jésus-Christ de mettre peut-être ce qu'on a appris, de mettre peut-être nos dogmes qui sont là, qui constituent les piliers, les colonnes de notre vie, mais peut-être que ça demande du courage de se dire, mais au final, est-ce que ces colonnes sont l'appui de la vérité? Est-ce que ces colonnes constituent la vérité? Est-ce que ces colonnes ne m'empêchent pas de rencontrer? Est-ce que ce que j'ai reçu dans ma vie, dans mon existence, ne m'empêche pas de rencontrer celui qui est la vérité, celui qui est la vie, celui qui est capable de faire, au-delà d'un miracle physique, de faire un miracle spirituel dans ma vie, de me redonner la vue? Alors qu'on est peut-être obscurci, parce qu'on a sans cesse le désir de maîtriser notre vie, de maîtriser notre âme, de maîtriser ce qu'on peut faire de bien, parce qu'on se dit, mais si j'agis bien, tout va être parfait. Si j'agis bien, alors je vais être propre, je vais être bien devant le Seigneur. Si je fais des bonnes actions, ça peut être bien. Ça peut être bien, ça va me faire approuver de Dieu. Alors que la parole de Dieu nous dit qu'il y a un seul chemin qui nous mène vers le Père. Il y a un seul médiateur. Il y a une seule chose que nous avons besoin de savoir, c'est de reconnaître Jésus-Christ, et on va le voir au fur et à mesure de l'avancement de ce message, c'est de recevoir Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Les pharisiens vont dire « il ne vient pas de Dieu ». C'est un triste constat, c'est un triste constat. Mais on va voir que l'homme aveugle aussi, cet homme qui était anciennement aveugle, va avoir besoin de grandir et d'évoluer. C'est mon deuxième point. Jésus, c'est l'homme. Jésus, c'est l'homme. Et c'est ce que cette personne aveugle va dire, l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il y a un avancement, il y a quand même quelque chose qui se passe, parce qu'il y a une rencontre. Lorsqu'on parle d'un homme, on se dit, mais il y a quelque chose, un lien qui a commencé à se créer. Il y a une interpellation, il y a eu de la compassion de la part de Jésus-Christ. Et vraiment, Jésus veut nous amener à comprendre que s'il est venu dans ce monde, c'est pour qu'il y ait un contact avec ses créatures, c'est pour qu'il y ait une relation qui s'instaure, c'est pour qu'il y ait un échange. Et d'ailleurs, c'est une vérité incomplète toutefois, mais c'est une vérité parce que Jésus-Christ, à de nombreuses reprises, va s'appeler lui-même le Fils de l'homme. Parce que la Bible nous enseigne qu'il s'est dépouillé, qu'il a accepté volontairement de quitter sa gloire pour venir marcher dans ce monde en simple homme. C'était vrai ce que va dire cet homme aveugle. C'était vrai. Jésus, c'était un homme, mais pas qu'un homme. Et c'est là où je voudrais arriver. Pas qu'un homme. Comment est-ce qu'on reconnaît Jésus-Christ? Est-ce que pour nous, on est catégorique, on dit non, mais Jésus ne vient pas de Dieu? Pour nous, c'est un étranger, ça veut dire ça. Pour nous, c'est un étranger, quelqu'un qui ne nous intéresse pas du tout. Est-ce que pour nous, Jésus-Christ, c'est un homme? C'est un simple homme, j'allais dire. C'est quelqu'un, on pourrait dire, peut-être avec un langage moderne, actuel, c'est un homme qui a marqué l'histoire. Peut-être qu'on est tous ce soir d'accord pour dire cela. Oui, Jésus-Christ a existé, l'histoire le prouve, le monde le prouve, on peut retracer sa vie d'un point de vue historique, il n'y a pas de problème. Oui, pour moi, Jésus-Christ a été un homme, on espérait... Dans la parole de Dieu, on voit des exemples où des hommes ont espéré que ça soit un leader politique extraordinaire. Oui, peut-être que Jésus, on aurait aimé que ça soit un leader politique, un leader religieux, en tant qu'homme. En tant qu'homme, on peut mettre beaucoup d'espoir dans une personne. Il peut y avoir des hommes extraordinaires, des femmes extraordinaires sur terre. Il peut y avoir des personnes qui ont changé le cours de l'histoire, des personnes qui ont montré une intelligence hors du commun, des personnes qui ont fait du bien toute leur vie, des personnes qui étaient là, qui ont marqué les proches, qui ont marqué le monde, la société, par ce qu'ils ont pu concevoir faire, par ce qu'ils ont pu imaginer, parce que leur parole a été écoutée, parce qu'il y a eu des combats peut-être dans leur vie, qu'ils ont mené toute leur vie et qui a abouti à peut-être des choses extraordinaires. Si nous reconnaissons Jésus comme un homme, comme quelqu'un qui a existé, mais sans plus, alors j'ai bien peur que nous passerons à côté du message de l'Évangile. Alors je pense que nous passons à côté de l'essentiel. Parce que, et je pense que cet homme aveugle, comme on l'a lu, avait besoin de saisir qu'il y avait plus. Qu'il y avait plus à expérimenter, qu'il y avait plus à prendre, que Jésus avait plus à donner, que Jésus avait plus à se révéler. Bien sûr, Jésus nous a montré le chemin, il est venu, il a marché dans ce monde, il a accepté de se donner, il a accepté de se dépouiller, et c'est ce que nous dit Philippiens, je le lis pour vous, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oui, Jésus, on ne peut pas le nier, ça a été un homme qui a marché. Mais ça a été un homme particulier parce que je ne sais pas ce que vous en pensez ce soir. Est-ce que vous êtes choqué? Est-ce que vous êtes surpris? S'il y avait eu un autre homme qui était là, qui aurait été passé devant cet homme aveugle, est-ce qu'il aurait pu le guérir? On voit plus tard des apôtres faire des miracles. On voit plus tard des apôtres passer qui vont guérir quelqu'un de paralysé. Est-ce que les apôtres, parce qu'ils ont fait un miracle, auraient pu nous accorder le pardon de nos péchés? Le jour de la crucifixion, Jésus n'était pas le seul sur la croix. Il y avait deux hommes, deux brigands. Est-ce que les brigands auraient pu, parce que c'était des hommes aussi, auraient pu nous apporter le pardon de nos péchés? Il faut considérer, et comment est-ce qu'on reconnaît Jésus-Christ ce soir? Est-ce qu'on le reconnaît comme un homme, si c'est cela? Alors on peut essayer d'atteindre, de désirer atteindre un mieux-être dans notre vie. On peut essayer de désirer avoir la paix. Mais si on néglige la divinité de Dieu, si on ne reconnaît pas que Jésus est le Fils de Dieu, on ne reconnaît pas non plus la plénitude de son sacrifice, on ne reconnaît pas le sacrifice de la croix. Et je pense que c'est dans cela que nous devons aller réfléchir, être interpellés par Jésus-Christ. De tout temps, Jésus-Christ a créé une polémique. De tout temps, des hommes étaient pour, des hommes étaient contre. J'ai noté ce verset, il y en avait d'autres. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. De tout temps, les hommes... ont reconnu quelque chose de particulier chez Jésus-Christ. Et de tout temps, des hommes l'ont rejeté, parce qu'il nous place face à nous-mêmes, Jésus-Christ. Parce que lorsque nous considérons Jésus-Christ, non pas comme un simple homme, mais comme le Fils de Dieu, et on y reviendra, vous allez voir, je vais le répéter quelques fois ce soir, excusez-moi, mais lorsque nous reconnaissons Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, immanquablement, on est obligé d'être face à nous-mêmes, face à ce que la parole nous dit, face à notre péché, face à l'éternité, face à notre âme, à la paix, face à nos propres choix, à ce que nous devons faire, en le reconnaissant comme tel. À un moment donné, dans la parole de Dieu, et c'est la suite du texte, il est écrit, « Il eut donc à cause de lui division parmi la foule. » Division. Et laissez-moi vous dire que si... dans votre cœur, vous dites, mais c'est pas que je rejette Jésus-Christ. C'est pas que je le rejette. Je l'accepte, mais comme homme. Je l'accepte d'un point de vue historique. Je l'accepte parce qu'il a dit des choses au point de vue de la morale, de la pensée, de la connaissance, de la science, des choses extraordinaires, dignes, même supérieures, j'allais dire dignes, mais supérieures aux plus grands philosophes du monde, bien plus supérieures, parce que Jésus pourra dire, mais tout ce que je vous dis, je l'entends de Dieu. Tout ce que je vous dis, je l'entends de Dieu. Si on reconnaît le Seigneur Jésus-Christ uniquement parce qu'il a fait de grandes choses, parce que ça a été quelqu'un d'extraordinaire, on passe à côté de ce qu'il veut nous donner ce soir. On passe à côté du pardon de nos péchés. On passe à côté de la joie. On passe à côté de la paix qu'il veut nous donner. On passe à côté de sa présence jour après jour. Le troisième point, et je ne vais pas tarder à finir, que j'aimerais partager, c'est cet homme aveugle. On voit qu'il y a une progression. On voit que lui, par rapport aux hommes religieux, aux pharisiens, il s'est positionné déjà. Il s'est positionné parce que lorsqu'on fait une rencontre, c'est quand même difficile de nier. Lorsqu'on expérimente Jésus-Christ, c'est quand même délicat de dire non, il n'existe pas. L'homme aveugle va commencer par dire c'est un homme et après il va dire mais c'est un prophète. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même bien. C'est quand même bien. Jésus, c'est un prophète. C'est une vérité. Mais là aussi, c'est une vérité qui reste incomplète dans notre vie si nous en restons ici, si nous en restons là, en disant oui, effectivement, je reconnais que Jésus-Christ parlait de la part de Dieu. Je reconnais que Jésus est venu conduit par Dieu. C'est une vérité, mais c'est incomplet. C'est incomplet. Il y a eu beaucoup, beaucoup de prophètes dans la parole de Dieu, dans le Saint-Livre. Peut-être ceux qui sont habitués à lire la Bible le savent. Il y a eu de nombreux hommes, nombreuses personnes, des femmes qui ont prophétisé, des hommes qui ont prophétisé, qui parlaient de la part de Dieu. Il y a eu beaucoup de personnes qui étaient là, approuvées de Dieu, qui communiquaient les paroles de Dieu. Ce n'est pas nouveau, ça a toujours existé. Depuis que l'homme est là, depuis que l'homme a su ouvrir son cœur à l'amour de Dieu, Dieu a voulu se servir des hommes. Et l'homme a toujours voulu, lorsqu'ils étaient en accord avec le Seigneur, avec l'Éternel, avec le Dieu créateur de l'univers, l'homme recevait la parole de Dieu et la communiquait. Il y a eu beaucoup de prophètes, beaucoup de prophètes, beaucoup de prophètes, mais quel prophète pouvait donner sa vie? Quel prophète pouvait donner sa vie pour que nous puissions dire « Je suis pardonné de mes péchés ». Les prophètes étaient là pour annoncer, pour refléter la sainteté de Dieu. Les prophètes devaient donner ces paroles qui venaient du cœur de Dieu parce que Dieu ne peut pas accepter le péché. Dieu est amour, mais Dieu ne peut pas accepter le péché. Il aime le pécheur et on ne se lassera jamais de le dire dans ce lieu. On ne se lassera jamais de dire que Dieu nous aime. Dieu t'aime. Dieu nous aime tel que nous sommes. Il le sait que nous n'avons rien à lui offrir, comme nous l'avons chanté. Il le sait parce qu'il nous connaît. Et le prophète était là pour dénoncer, condamner le péché. Le prophète était là pour montrer, proclamer la sainteté de Dieu, que Dieu était un Dieu saint et qu'il ne pouvait pas accepter le péché. Et la différence avec Jésus-Christ, c'est lui, lorsqu'il est venu, il est venu pour dénoncer le péché, mais il est venu pour donner la solution au péché. Il est venu pour dire que le péché nous éloignait de Dieu. Il est venu pour marquer cette réalité que le salaire du péché, c'est la mort. Mais il est venu aussi pour dire que c'est sa vie qui nous accorde le pardon, que c'est sa vie qui nous donne la paix. Il est venu pour dire à l'ensemble de l'humanité qu'il y avait une solution et que la solution, c'était lui. Il y a un autre texte qui m'a fait penser à cela. Je le lis pour vous, c'est une histoire qui m'a souvent et encore me bouleverse lorsque je la lis. C'est dans Luc 7, lorsqu'il y a une femme, la Bible nous dit qu'il y avait une femme pécheresse, qui lorsqu'elle a entendu que Jésus était là, dans la maison d'un pharisien, va accourir, va se mettre à ses pieds, va essuyer, laver les pieds de Jésus-Christ avec ses larmes. va essuyer les pieds de Jésus-Christ avec ses cheveux, va embrasser les pieds de Jésus-Christ. Et le pharisien qui était là va dire, mais si c'était un prophète, si c'était un prophète, il verrait que cette femme est pécheresse. Il verrait que cette femme, on pourrait le traduire comme ça, n'est pas digne de lui. Si c'était un prophète, il verrait de suite que cette femme est méprisable. On pourrait le traduire comme ça aussi. Et alors que Jésus-Christ est là, il va expliquer en parlant à Pierre, mais il y a là tout l'amour de notre Sauveur. Il y a là ce que peut-être cet homme aveugle avait besoin de comprendre et peut-être ce que nous, on a besoin de comprendre. Parce que comment est-ce qu'on reconnaît Jésus-Christ ? Comme simple homme, comme prophète uniquement ou comme fils de Dieu, celui qui est capable de pardonner les péchés. Parce qu'il va dire, mais voilà cette femme. Voilà cette femme, peut-être que pour les autres, elle est misérable. Jésus a vu qu'elle était remplie de péchés, bien sûr. Parce que c'était Dieu, il voyait, il lisait dans les cœurs, Jésus voyait la misère de cette femme. Mais Jésus est venu dans ce monde pour dire qu'il y a une solution, pour dire ce qui peut changer dans une vie, ce n'est pas d'essayer d'être bien, ce n'est pas d'essayer d'être correct, ce n'est pas de s'intéresser à Jésus avec notre intelligence, selon l'histoire, selon la philosophie, selon la sociologie ou que sais-je encore, ce qui change les vies, ce qui bouleverse les existences, ce qui peut nous interpeller ce soir, c'est de dire que oui, nous sommes remplis de péchés, mais Jésus est toujours rempli de miséricorde parce qu'il a payé le prix sur le bois de la croix. Il va dire, femme, tes péchés sont pardonnés. Va en paix, va en paix. Cette femme qui était venue remplie de péchés va pouvoir partir, le cœur libéré, l'existence changée. Parce que cet homme qui est venu, parce que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est venu pour montrer qu'il ne pouvait pas accepter le péché, mais pour montrer qu'il y avait une solution. Je terminerai avec la fin de cette histoire, parce que quand même, cet homme va arriver enfin, j'allais dire, mais Dieu sait comment nous parler, Dieu est patient, Jésus sait comment il faut nous aborder. Il a cette sensibilité, cette délicatesse. Parce que la Bible nous dit que lorsqu'il a appris qu'il avait été chassé du conseil des hommes religieux, lorsqu'il avait été chassé, Jésus vient à sa rencontre. Lorsqu'il savait qu'il n'y avait plus d'obstacle maintenant, lorsqu'il savait que peut-être il était seul, il se posait peut-être des questions, cet homme. Il se disait, mais après tout, je ne sais pas, c'est un prophète, mais est-ce que qui est-il vraiment ? Et Jésus va lui poser cette question. Et c'est une question qu'on peut se poser à nous. Crois-tu au Fils de Dieu ? Je la reformule à la lumière du texte avec mon titre. Est-ce que tu reconnais Jésus comme le Fils de Dieu ? Est-ce que tu le reconnais comme le seul capable de t'accorder le pardon de tes péchés ? Est-ce que tu reconnais Jésus-Christ dans ton existence comme celui qui peut te dire « mais va en paix », comme celui qui peut te pardonner, comme celui qui te comprend, mais qui veut t'amener à comprendre que ce qu'il attend de toi, c'est ce que va faire cet homme, c'est que tu te prosternes. Alors, on ne veut pas choquer ce soir, il ne s'agit pas d'un acte physique, comme l'a rappelé Michael, il ne s'agit pas de chercher par nos efforts, d'essayer de chercher des émotions, des sensations. Mais c'est un acte de cœur, un acte de notre âme. Est-ce que on reconnaît Jésus ? Est-ce qu'on reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu ce soir ? Parce que si on le reconnaît comme Fils de Dieu, on est obligé de prendre ce verset qui est, je pense, un des versets les plus cités au monde. Mais si on comprend, si on reçoit le Fils de Dieu, alors on comprend que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, pas un homme. Il n'a pas donné un homme, il n'a pas donné un prophète, il a donné son Fils, Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si on reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu, il faut qu'on reconnaisse que sans Dieu, on est pécheur, que sans Dieu, on est perdu. il y a une réponse qui est possible. Et cette réponse, je l'ai anticipée, mais c'est ce que va faire cet homme. La seule réponse à l'amour de Jésus-Christ, c'est pas de dire « C'est vrai, Seigneur, j'ai pas été quelqu'un de bien. C'est vrai, Seigneur, après tout, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de me battre avec mes propres efforts, j'ai essayé de surmonter le mal par le bien, par ma propre intelligence, ma propre sagesse, j'y suis pas arrivé. » C'est pas d'être touché dans son cœur. Ce n'est pas de comprendre qu'il y a quelques péchés dans notre vie qui dans lesquels nous avons besoin de demander pardon pour le Seigneur Jésus-Christ, dans lesquels nous avons besoin de demander pardon à Dieu. Le seul acte que nous avons besoin de faire, c'est de nous repentir. C'est ce que va faire cet homme. Je pense que ce n'est pas outrepasser les Écritures de dire que lorsqu'il va se prosterner devant Jésus-Christ, c'est comme s'il disait « Oui, Seigneur, j'ai fait ma vie sans toi. J'ai été guidé, dirigé par moi seul. Mais maintenant, je me repens. J'ai compris que ma vie était loin de toi. J'ai compris que mon péché m'éloignait de toi. J'ai compris que le monde est inimitié contre toi. J'ai compris que maintenant, la seule chose qui me reste à faire, c'est m'éloigner de mon péché pour m'attacher à toi. » Et c'est ce que le Seigneur nous demande ce soir. C'est de nous repentir, c'est de l'accepter, c'est de reconnaître Jésus-Christ comme le Fils de Dieu.